Les séminaires du Collège de France.
Bon, on va pouvoir commencer. Donc, c'est comme d'habitude pour les conférenciers que j'ai invités, mais encore plus là pour cette fois-ci. J'ai le plaisir de vous présenter donc Michael Abbas et Jean-Philippe Argaud, qui sont tous les deux ingénieurs experts à EDF et avec qui j'ai eu le plaisir et la chance de collaborer dans le cadre de plusieurs collaborations. Et contrat avec EDF, et donc tous les deux travaillent dans des domaines un petit peu différents d'EDF, et je leur ai demandé de venir nous présenter l'utilisation des méthodes de réduction de complexité dans le cadre d'EDF. À vous.
Merci Yvon. Alors nous sommes très heureux de répondre à ton invitation pour venir parler des éléments de réduction de complexité dans notre domaine de la production d'énergétique et d'électricité. Comme tu l'as dit, nous sommes tous les deux ingénieurs de recherche à EDF R&D. Nos spécialités, c'est les mathématiques appliquées pour le numérique, la mécanique des matériaux et de leur comportement, l'optimisation ou la confrontation calcul-mesure. Donc pour tout ça, ce sont déjà des points dont vous avez entendu parler dans le cours précédent, donc ça tombe bien. On va vous présenter nos éléments de réduction de complexité à deux voies. D'abord, une vue très générale et rapide sur quels sont les éléments de complexité pour la simulation numérique sur nos problématiques d'électricité, et puis ensuite des exemples en mécanique et en neutronique. Alors, on va se préoccuper d'études industrielles, donc comme l'a dit Yvon tout à l'heure, dans lesquelles il y a une modélisation de la physique qui va nous intéresser sur des structures industrielles et pour lesquelles on va faire de la simulation numérique pour aider à la prévision dans le but de décider de la maintenance, du suivi de ces installations, de leur production, etc. Donc, dans ce cadre-là, quels sont les éléments de complexité qui vont nous intéresser, qui vont nous préoccuper. De manière assez complexe, justement, c'est la conjonction de plusieurs éléments qui va amener cette complexité-là. Un premier élément, c'est le temps de vie ou la durée de surveillance de nos outils industriels. Cette durée-là, qui est grande par rapport au temps pendant lequel on a des perturbations qui vont entraîner des non-fonctionnements, des défaillances, etc. Ces durées de vie, ici, par exemple, le barrage qui est là a 7 années, exactement 100 ans, c'est-à-dire 4 générations d'ingénieurs qui ont travaillé dessus, et pourtant, ils continuent à produire de la même manière que ce qui était prévu initialement dans ce barrage-là, alors que les sources de défaillance peuvent être à des échelles de temps bien inférieures, par exemple les modifications de température dans les saisons, de température jour-nuit, voire les épisodes de pluie, c'est à des échelles de temps bien inférieures, et ça impacte la tenue du barrage. Un deuxième élément de complexité qui intervient et qui est conjoint avec le reste, c'est la dimension des ouvrages. La dimension de ces ouvrages qui est grande et sur lesquels on veut une grande précision de simulation numérique. De l'autre image à côté, de l'éolienne, qui est une structure qui peut atteindre la taille de la tour Eiffel et dans lequel une fissure va initier un défaut qui va entraîner une défaillance potentielle du fonctionnement de l'éolienne. La fissure elle-même est à une échelle bien inférieure. Donc la conjonction d'échelles de temps, d'échelles de dimension, la multiplicité des sollicitations physiques aussi, entraîne une très forte complexité de nos simulations numériques pour prévoir ce fonctionnement-là. Donc comme le but est d'avoir une production fiable derrière d'électricité sur ces échelles de temps, évidemment, c'est comment s'assurer et comment vérifier, surveiller la durée de vie prévue pour ces outils-là. Donc évidemment, le comportement, on le prévoit avec la simulation numérique, et ce qui va nous intéresser, c'est de faire la meilleure prévision possible dans les temps les plus restreints possibles pour être compatible avec nos études industrielles. Alors, pourquoi réduire là-dedans? Eh bien évidemment, pour simuler plus vite et pour simuler mieux. Les impératifs d'analyse qu'on a, les éléments de besoin de simulation qu'on a là-derrière, vont donc porter sur le besoin de représenter des physiques complexes, des éléments de géométrie et numérique qui vont être qui vont essayer de représenter la structure telle que construite, même pas telle que planifiée, mais telle qu'existante, ce qui est très compliqué sur les structures industrielles réelles. Et donc ce sont des objets complexes et en fonctionnement, évidemment, qui vont changer d'état avec le temps. Ce qui nous intéresse aussi, c'est d'arriver à faire des simulations numériques qui sont dans les temps d'étude. Une étude industrielle, ce n'est pas dans l'état idéal où on a un temps infini, c'est on a une durée finie pour faire une étude. Quand ça va être quelques semaines, quelques mois, il faut que les éléments de simulation arrivent dans ces temps-là et avec la précision qui va nous intéresser, puisque la précision qui nous intéresse va impacter la prise de décision. Et selon qu'on a à vérifier le bon comportement des structures industrielles, qui est en gros la variation par rapport à un état moyen prévu, on a besoin d'une précision qui est moindre que quand on doit vérifier le comportement de ces structures par rapport à un état limite, par rapport à une limite réglementaire, une limite technologique, etc., dans lequel la précision est importante pour savoir qu'on ne dépasse pas cette limite qui entraînerait éventuellement la ruine de la structure. Donc dans ces cas-là, ce qui va nous intéresser, ça va être d'améliorer ici la précision de l'état final prévu, puisque c'est là, c'est pour cet élément-là qui est à la durée de vie de notre structure qu'on va vouloir avoir des prévisions fiables pour prendre des décisions, d'avoir aussi des éléments sur ce qui se passe entre cet état final pour lequel on veut obtenir la durée de vie, et bien ce qui se passe entre l'état présent et cet état final, et évidemment d'améliorer aussi la connaissance de l'état actuel, qui est le seul sur lequel on va avoir des mesures qui vont nous permettre d'insérer une information supplémentaire par rapport à la simulation dans la représentation des systèmes complexes. Ici, nous en reparlerons dans les exemples. C'est par exemple la partie centrale d'un cœur de réacteur qui est l'élément de production de chaleur dans la machine thermodynamique complète qui est le réacteur nucléaire. Alors, ces éléments de contraintes et ces motivations pour réduire s'accompagnent aussi finalement de nos limites, et je vais les mentionner très rapidement, on en reparlera dans les exemples, de nos limites et des besoins de recherche qui nous intéressent largement actuellement en réduction de complexité. Une première limite, c'est qu'on n'a pas des temps infinis, évidemment, dans la réalité, et que donc la partie offline, qui pour l'instant a été considérée comme étant extensible à volonté, eh bien est souvent pour nous assez réduite. On a un temps limité pour conduire un certain nombre de calculs haute définition, qui vont permettre derrière de faire de la réduction de complexité et de la réduction de modèles. Donc, réduire la partie offline est un enjeu, et en fait, plus que ça, c'est par exemple l'intérêt énorme pour avoir des algorithmes itératifs, comme Yvan en a parlé ce matin, des algorithmes incrémentaux, itératifs, qui vont amener de l'information chaque fois qu'on a une nouvelle solution haute définition, et bien ça permet d'améliorer énormément la prise en compte dans la partie offline des modèles haute définition. Un deuxième point qui est très important industriellement, c'est d'avoir une maîtrise, si possible, autant a priori qu'a posteriori, c'est-à-dire dans les algorithmes a priori ou dans la construction explicite des modèles réduits, de tout ce qui est bruit et erreur, évidemment. On en a dans les mesures, on en a dans les modèles, aujourd'hui on en a déjà entendu parler et ça continuera dans le cours. On a un point qui est très important, qui est qu'on essaye de réduire dans des situations dans lesquelles tout n'est pas paramétrique. Pour l'instant, l'espace dans lequel on travaille, on postule que la solution dépend des paramètres. Et des fois, ça n'est pas toujours explicitement paramétrique. Par exemple, l'apparition de défauts ou le positionnement de défauts, le nombre de défauts, c'est quelque chose qui est difficilement paramétrique. Dans une éolienne, selon l'endroit où va apparaître un défaut, eh bien, son effet va être totalement différent et son évolution va être totalement différente. Comment prendre en compte des caractéristiques non paramétriques? On verra dans certains exemples qu'on peut les prendre partiellement en compte, ces caractéristiques non paramétriques, malgré la position du problème ainsi. Et enfin, un dernier point, c'est que, je l'ai dit initialement, une partie de la complexité vient du fait qu'on a la conjonction d'un ensemble de sollicitations physiques, d'un ensemble de physiques impactant les structures industrielles, et ce qui fait que même quand on fait de la réduction de modèles par physique ou par sous-problème, lorsqu'on les couple, il faut qu'il y ait toujours émergence des complexités que l'on cherche à traiter dans les simulations couplées de modèles réduits. On peut faire la réduction du modèle complet. On a vu dans les exemples industriels précédents qu'on pouvait réduire les modèles par morceaux réduire les physiques ou les modèles par morceaux ne doit pas faire disparaître la complexité des simulations couplées qui nous intéressent dans les modèles haute définition, évidemment aussi. Donc tout ça, ce sont les défis industriels de mise en œuvre de ces méthodes-là, autant au niveau mathématique qu'expérimentaux et opérationnels pour conduire les calculs dans le cadre des études. Je vais passer la parole à Michael pour la suite de la partie sur les exemples.
Alors, on va parler un petit peu de mécanique, donc de mécanique des structures et des solides, hein, pas de mécanique des fluides. On va commencer par deux notions que l'on considère comme très importantes dans un cas industriel. Donc, en général, cette image-là, on l'utilise pour une illustration intéressante. Donc, la plupart d'entre vous verront soit un verre à demi vide, soit un verre à demi plein. Eh ben, nous, ce qu'on voit dans l'industrie, c'est un conservatisme de facteur 2 sur le risque de débordement du verre. Donc ça, c'est une blague qu'utilisent beaucoup les gens dans le nucléaire. Donc, ce que je voulais introduire là, c'est la notion de conservatisme. C'est-à-dire que on a vu que les structures qu'on allait étudier sont des structures extrêmement complexes. Donc, on a le droit d'être faux. On sera faux puisque nos modèles sont imprécis, puisque nos données sont imprécises, mais qu'on doit être faux dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on doit être conservatif. Donc, ça veut dire qu'on veut progresser éventuellement en étant moins faux et non pas l'inverse. Donc, finalement, réduire la complexité de nos structures, c'est une nécessité qui est pratique. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la résolution de notre problème devienne plus complexe pour essayer de gagner sur le conservatisme. Alors, il y a une autre illustration qu'on utilise assez souvent qui est purement mécanicienne. Hein. Je suis désolé, c'est un travers disciplinaire. Quand on fait quand on dimensionne une structure, en général, on essaie d'être conservatif, comme je l'ai dit. Donc, une illustration assez simple. Là, j'ai une représentation assez simple de ce que c'est que le comportement d'un matériau qui se déforme. Donc, vous avez la déformation ici, la contrainte. Et pour dimensionner, a priori, dans les années 60 ou les années 70, quand on a conçu les centrales nucléaires, ou dans les années 50, quand on a conçu les barrages, on n'avait pas accès à des modèles très fins. Donc, on surdimensionne en disant, notre structure est élastique. On a un niveau de contrainte très élevé, mais conservatif. Et donc ça, c'est le gros avantage, c'est que c'est linéaire. Donc du coup, on n'a pas trop de difficultés. Mais au fur et à mesure du temps, les conditions changent, les chargements changent, le matériau évolue. Donc on est obligé de gagner un petit peu sur cette marge, qu'on appelle la marge, c'est-à-dire la différence entre la réalité et le dimensionnement qu'on a utilisé. On a mis une marge de sécurité. Et pour gagner sur cette marge, en général, la stratégie la plus étudiée, la plus utilisée, c'est soit de gagner sur des mesures plus fines, donc Jean-Philippe en parlera plus dans la partie sur la neutronique, soit de passer dans le domaine non linéaire. Et quand on passe dans le domaine non linéaire, ça devient plus difficile de résoudre un problème, ça devient plus coûteux et ça introduit plus de paramètres. Donc finalement, l'augmentation de la complexité, il faut pouvoir la gérer de cette manière-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point de mécanicien, c'est qu'un mécanicien, c'est un réducteur de modèles qui s'ignore depuis au moins 70 ans. Il y a une méthode de référence qu'on utilise beaucoup encore en mécanique. On en a un petit peu parlé, Yvon en a un petit peu parlé dans ses cours, c'est la réduction modale dynamique. C'est-à-dire que fondamentalement, pour dimensionner des structures en dynamique, en mécanique, on utilise la notion de mode propre et de vecteur propre. On en parle depuis trois semaines. Et c'est une méthode qui est encore beaucoup utilisée, et d'ailleurs qui est majoritairement utilisée pour le dimensionnement des structures en mécanique. Donc là, je vous ai mis un petit exemple assez rigolo qui montre que pour représenter c'est un bâtiment avec plein d'étages. Imaginons que ce bâtiment est soumis à un séisme. Eh bien, une des premières méthodes pour résoudre le problème et pour le dimensionner, cette structure, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un modèle brochette. C'est-à-dire représenter l'ensemble du problème par juste une tige avec des masses. Et puis, ce modèle-là, on va l'étudier en utilisant les méthodes de réduction de modèle qui sont les méthodes modales. Donc, on a un opérateur, on va extraire des vecteurs propres, des valeurs propres, on va projeter le résultat sur cette base propre et on va faire des calculs sur cette base propre. Et donc, c'est une méthode qu'on utilise toujours qui permet de passer de modèles à plusieurs centaines, voire plusieurs millions de degrés de liberté, la réalité qu'on a discrétisée, à des modèles à quelques dizaines de modes propres, donc le N cursif qui devient très petit. Donc, c'est les méthodes de référence qu'on utilise en mécanique toujours et qui prouvent qu'on fait de la réduction de modèles en mécanique de structure depuis le début. C'est une des méthodes de réduction de complexité qu'on utilise le plus en mécanique, mais il en existe d'autres. Donc ça, c'était pour les exemples un peu introductifs. Maintenant, je vais passer par quatre exemples différents de réduction de complexité qu'on a traités qui permet d'illustrer un certain nombre de points et de revenir sur une partie des éléments qu'on a eu dans le cours d'Yvon. Alors le premier, historiquement, quand on a commencé à faire la réduction de modèles, c'est une thèse qu'on a faite pour la problématique de réparation des tuyauteries. Alors qu'est-ce qui se passe ? la tuyauterie dans un système industriel est usée, soit parce qu'il y a de l'eau qui passe dedans, soit parce qu'on a découvert une fissure, donc on a creusé le matériau pour pouvoir enlever cette fissure. Il arrive un moment où on doit remettre de la matière, ce qu'on appelle du rechargement. Donc la technique, là, ça s'appelle du rechargement par overlay. Donc comment on fait? Bah, on fait comme on voit dans les films, entre guillemets, bah, on va les souder, des cordons, comme ça, sur la tuyauterie. Et donc, idéalement, c'est un problème de mécanique, donc de thermique non linéaire, puisqu'on a une torche de soudage qu'une source de chaleur, avec de la mécanique qui est également non linéaire à cause des températures très élevées. Et on a une dépendance des paramètres matériaux qui va forcément dépendre de la température, puisque la perte de température est très grande. Donc, l'objectif, c'est de se dire de loin, ce qui se passe sur un cordon doit bien ressembler à ce qui se passe sur le cordon d'à côté. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de gros écarts. Donc, on suppute quand même une certaine similarité dans le résultat. Donc, l'objectif, là, c'est d'accélérer les calculs en utilisant les résultats d'un cordon déjà calculé sur le cordon suivant. Ça permet d'accéder aux calculs paramétriques, mais ça permet surtout d'accélérer les calculs, même les calculs unitaires, en disant, bah, sur les, là, il y a, c'est un exemple, je crois qu'il y a 200 cordons, bah, sur les 200 cordons, j'ai peut-être besoin d'en calculer que 4 ou 5, et puis les suivants, bah, je pourrais utiliser une méthode réduite. Donc, c'est aussi le premier, historiquement, dans lequel nous, on a commencé à faire de la réduction de modèle, en tout cas EDF-RD, pour apprendre ce que c'est que la réduction de la modèle et l'implémenter dans notre code de calcul industriel, qui est Codaster, en l'occurrence, qui permet, effectivement, de réaliser ces études. Donc, la méthodologie retenue, vous allez retrouver des termes qu'on a vus pendant le cours. Donc, c'est une décomposition SVD sur une matrice des snapshots. C'est-à-dire qu'on fait des calculs haute fidélité, U, qui dépendent de mu. On fait une matrice des snapshots et on fait un calcul SVD pour trouver les bases réduites. Et on a une méthode de sélection d'éléments finis, une méthode UEM qui permet d'accélérer encore plus ce calcul. C'est ce qu'on appelle de l'hyper-réduction. Donc, voilà un exemple de résultat. Donc, les principaux résultats, bon, l'accélération des calculs reste relativement modeste. Alors, quand on dit modeste dans l'industrie, c'est-à-dire si on gagne qu'un facteur 2, bon, c'est bien, mais c'est pas génial. Le domaine de variation de paramètres est assez restreint avec ces méthodes qu'on avait développées à l'époque. Et puis, ce qui est très intéressant, par contre, c'est que ça ouvre des perspectives sur autre chose que la problématique du soudage. Ça ouvre des perspectives sur la mécanique non linéaire en général. Et donc, du coup, un des premiers résultats qu'on a eu, c'est qu'on a développé des commandes qui permettent de faire la réduction de modèle dans notre code élément fini. Donc, je fais un petit peu de publicité, parce que comme le code qu'on développe, il s'appelle Codaster et qu'il est open source et gratuit depuis 35 ans, si vous voulez faire de la réduction de modèle en mécanique, eh ben, vous avez des opérateurs dédiés dans ce code de calcul. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est une thèse qui a été, qui est donc de Amina Benasser. Alors, c'est notre complexité qu'on peut voir dans les structures industrielles comme les nôtres. Ça, c'est un clapet sur une tuyauterie. Donc, c'est une structure extrêmement complexe, avec plein d'éléments, des vis, des ressorts, etc. Et là, l'idée, c'était d'accélérer les calculs pour la partie thermique. Donc, vous avez de l'eau chaude qui circule à l'intérieur de la tuyauterie, qui va, du coup, se diffuser dans la partie mécanique, dans la partie solide. Et la question est de savoir comment va se déformer la structure. Est-ce que le robinet, on va pouvoir... Alors, c'est pas un robinet, là, c'est un clapet, mais si c'était un robinet, est-ce qu'on va pouvoir continuer à l'ouvrir, etc., etc. Donc, il s'agit de thermique non linéaire avec des paramètres, toujours, qui dépendent de la température. Alors, la difficulté principale ici, c'est que le calcul, la source de chaleur, c'est un fluide qui circule dans la tuyauterie, qui sont faits par les collègues de la mécanique des fluides, ils font des calculs de circulation d'eau pour nous donner, grosso modo, les relevés des températures en chaque point du domaine. Et là, la question, c'est de savoir comment récupérer ces données, faire le calcul de thermique derrière. Le principal objectif, c'est d'accéder au calcul massivement paramétrique, parce que là, les conditions dans lesquelles on va faire les différents calculs vont donner des résultats différents. Donc, on va être obligé de gérer la situation avec plein de paramètres. Et le premier point, on en a parlé rapidement, c'est que dans l'industrie, on n'a pas un temps infini. Donc, dire que le coût offline, on a tout le temps qu'on veut, c'est pas vrai. On veut diminuer ce coût au maximum. Ça, c'est une évidence pour tout. D'ailleurs, je crois que les autres, je ne sais plus si c'était Fabien Cazenave à Safran ou la personne la semaine dernière qui en a parlé, mais diminuer le coût offline est aussi un enjeu pour les industriels. Et on a essayé aussi de séparer les outils de calcul de réduction de modèle de la partie calcul éléments finis proprement dit. C'est ce qu'on appelle les approches non intrusives. C'est-à-dire, on ne modifie pas le code de calcul, on enrobe le code de calcul de bibliothèques autour. Donc, la méthodologie retenue dans cette thèse, c'est ce qu'on appelle la progressive RBEIM, PREM, qui est une extension d'une autre méthode qui a été développée par Christophe Prudhomme, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est une méthode qui consiste à calculer. Et on a vu juste avant, là, on l'a plus sur le tableau, mais quand on fait une EIM, on peut la faire sur une base réduite qu'on a précalculée. Donc, l'idée, c'est on calcule une base réduite par une méthode POD, une méthode greedy, et une fois qu'on a la base réduite, on calcule l'EIM dessus. Et ça fait deux fois un calcul, ça coûte cher. Donc l'idée de ces méthodes-là, que ce soit la prime ou la SER, c'est de construire simultanément la base réduite et le IM. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps de calcul pour pouvoir faire justement réduire cette partie offline. Donc ça permet d'avoir, au mieux d'avoir une séparation des deux opérations, de les faire en même temps. Alors, le principal résultat, donc là, j'ai mis juste un compte pour comparer une pré-UEM avec une séparation des deux. Donc là, c'est juste l'erreur faite sur le problème en fonction de la valeur d'un paramètre. Bon, là, je n'ai pas précisé, je pense que c'est le coefficient d'échange thermique. Mais c'est pour montrer qu'on a le même résultat. Et on voit ici que si on prend une base 100 pour le calcul classique séparé base réduite EIM, eh bien, avec la méthode pré-UEM, on arrive à diviser par 5 le temps de construction de la base offline. Et diviser par 5 le temps de construction d'une base offline, c'est extrêmement intéressant en pratique. Donc, c'est très efficace. Par contre, si on est obligé de jouer, alors, il n'y a pas de miracle, hein, ça, c'est, l'information existe ou n'existe pas. Il faut jouer sur les paramètres de l'IM et de la calcul de la base réduite pour pouvoir obtenir des résultats à peu près cohérents. Un autre sujet qui a été abordé dans cette thèse, je crois me souvenir qu'ils ont été dans le jury d'ailleurs, c'est un sujet qui a été abordé la semaine dernière, c'est la réduction de modèles pour des problèmes de mécanique qui sont très compliqués, qu'on appelle le contact-frottement. C'est un sujet que moi je traite par ailleurs dans mes activités en dehors de la réduction de modèles. Donc c'est un problème qui est extrêmement important mécanique. Il y en a partout, hein, si vous regardez autour de vous, du contact-frottement, le gobelet, vous sur les ciels, donc il y en a partout. Et ce sont des problèmes qui sont mathématiquement très difficiles à résoudre. Et évidemment, les réduire, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à diminuer, on n'a pas une bonne épaisseur de Kolmogorov, c'est très compliqué. Donc, dans la deuxième partie de la thèse d'Amina, elle a commencé à aborder ce sujet. Elle a quelques résultats, il y a quelques résultats intéressants qui ont été continués dans une autre thèse, après, dont je ne parle pas. Ça ouvre des perspectives sur réduire des problèmes difficiles industriels qu'on ne sait pas réduire. Il y a le contact-frottement, par exemple, qui est un problème extrêmement difficile et extrêmement important. Troisième sujet. Alors, celui-là, il est très récent, c'est la thèse d'Eki et Agusan. Donc là, c'est pour vous montrer encore une illustration de ce que c'est que la complexité dans les structures industrielles. Ça, c'est une enceinte de confinement en béton armé. Alors, dans le nucléaire, on a plutôt tendance à dire que c'est du béton, c'est pas du béton armé, mais c'est du ferraillage avec un peu de béton, parce qu'il y a énormément d'acier. Mais ce sont des structures très complexes, avec des armatures en acier, des câbles de précontrainte noyés dans le béton. Donc ces structures sont très complexes. Donc l'idée de cette thèse-là, c'était pour faire la réduction de modèle pour le génie civil et faire du recalage de modèle. Donc, c'est un matériau qui est complexe. Alors, le béton, c'est un matériau très complexe, hein, qui n'est pas homogène, avec des granulats à l'intérieur, des réactions chimiques. Donc, c'est un modèle thermique, parce que le béton chauffe quand il sèche, hydrique, parce qu'il y a de l'eau, et mécanique. C'est un problème fortement couplé. Donc, ça, c'est un problème, justement, qu'illustrait Jean-Philippe sur les problématiques de couplage des différents modèles thermiques, hydriques, mécaniques. C'est un mélange de modèles. Alors, ça, c'est typique pour les industriels. C'est qu'on n'a pas que un cube 3D. On a une structure qui est géométriquement relativement simple, hein, parce que les ingénieurs qui conçoivent les structures en général font des trucs simples, cylindres, cubes, mais quand même, avec des aciers au milieu. Et ça, c'est très compliqué à modéliser, donc autant dire que pour pouvoir réduire ce problème, c'est aussi très compliqué. Et puis l'autre problème, c'est celui qu'a illustré effectivement Jean-Philippe, ces enceintes de confinement sont prévues pour durer au minimum 40 ans, voire 60, voire 90, et pendant ce temps-là, le béton subit un certain nombre de conditions climatiques. Alors, l'objectif, c'est le calme non linéaire du matériau. Donc là, on a pris en compte le fluage. Alors, le fluage, la notion de fluage, c'est le comportement du béton sous son propre poids. Hein? On a fait également, l'idée, c'était derrière, alors on n'est pas arrivé au bout. Enfin, en l'occurrence, le docteur, maintenant, n'a pas pu aller jusqu'au bout, puisqu'évidemment, il y avait que 3 ans. Essayer de recaler. Donc, on a commencé à regarder, parce qu'on a fait une maquette à l'échelle 1/3 d'une enceinte de confinement sur un site d'EDF R&D, qui est le projet Vercors, et avec beaucoup, 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 plein de capteurs, des centaines et des milliers de capteurs, autant dire beaucoup plus que sur les vraies enceintes, qui permettent d'essayer de voir si on peut reproduire un petit peu le phénomène avec une structure vraiment très instrumentée. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Et troisième, c'était pouvoir enfin traiter le cas du béton avec des aciers dedans. Donc les trois objectifs ont été partiellement atteints. Donc la méthodologie retenue, c'est une POD avec un algo greedy, une extraction de base réduite par une approche incrémentale. Donc c'est assez classique. Par contre, pour la partie dite EIM, c'est la réduction de complexité de deuxième niveau, on a utilisé ce qu'on appelle une méthode de quadrature empirique. Donc ça consiste à dire qu'on va sélectionner un certain nombre de points, justement ce dont on parlait tout à l'heure, sur un élément quelconque, un cube, un triangle, je ne sais quoi. Quand on calcule les intégrales, on a besoin de choisir des points sur lesquels on calcule les intégrales, et il y a des méthodes qui permettent de réduire le nombre de ces points, de sélectionner ces points par rapport à des critères de réduction de modèle. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Alors voilà un exemple. Alors c'est un exemple. Alors c'est pas sur une enceinte, mais une portion d'acier. Vous voyez ici des câbles. On voit rarement des câbles de précontainte et on voit ici le béton un petit peu en grisère. Je sais pas si on voit très très bien de loin, mais enfin s'il faut voir. Et les éléments gris là, c'est des parties du modèle qui sont les seules sur lesquelles sont calculés le problème mécanique. C'est-à-dire on a réduit notre problème et au lieu de simuler tout ce truc-là, ben on prend que quelques éléments représentatifs pour aller beaucoup plus vite. Donc les principaux résultats, c'est donc développer des commandes spécifiques pour prendre en compte l'empirale quadrature. Et puis surtout, les deux problèmes importants, c'est les conditions de raccord entre degrés de liberté, parce que quand vous plongez un acier au milieu du béton, il faut lui donner des conditions pour dire quel est son comportement mécanique par rapport au reste de la structure. Donc l'acier est plongé dans le béton, donc il ne doit pas bouger. Donc on lui impose qu'il ne bouge pas. Donc ça met des conditions limites supplémentaires qui sont compliquées à prendre en compte. Donc ça, c'est une des grosses avancées de ce travail-là, c'est de pouvoir prendre en compte ces modèles-là qui sont indispensable dans un cadre industriel. Et on a fait derrière ce modèle pour un cas couplé, alors assez simple, tout est relatif, hein, mais reste relativement simple, pour séchage du béton. C'est la partie, quand on a coulé le béton, il y a plusieurs mois pour lequel il sèche, qu'on appelle la thermohydromécanique couplée. Et enfin, dernier sujet, alors j'ai gardé ce dernier sujet pour la fin, et c'est pas un sujet spécifiquement EDF, mais j'y tiens beaucoup. La première, c'est la thèse de la DIA. La première raison, c'est que le directeur de thèse était Yvon, donc il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas. La deuxième, c'est une collaboration avec Naval Group. Donc Naval Group, vous connaissez hein, certainement, c'est l'entreprise française qui fabrique les sous-marins et les navires de guerre pour ce genre d'application. Et donc la question, c'était réduire le problème de vibro-acoustique. Alors ce problème est très intéressant à deux titres. Le premier, c'est que c'est un problème couplé entre fluide, l'océan, une portion d'océan, et la structure, donc une hélice ici. Ils appellent ça un propulseur dans le domaine naval. Donc c'est un couplage fluide-structure. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux physiques différentes avec un couplage entre les deux. Mais ça reste un problème linéaire. La difficulté majeure, c'est le couplage. Et surtout, c'est un problème qui dépend du temps. Donc c'est exactement l'illustration du problème qu'on avait illustré dans un exposé industriel. C'est un problème de propagation d'ondes qui est extrêmement difficile à réduire. Alors, les paramètres, c'est un chargement. Alors, le chargement typique de Naval Group, c'est j'ai une structure métallique de 100 mètres de long, de certaine épaisseur, avec des gens dedans. Et puis, à quelques distances à l'extérieur, dans l'eau, il y a une explosion. On ne sait pas pourquoi, une explosion. Et donc, il y a propagation d'une onde de pression. Et la question est de savoir, est-ce que cette onde de pression va avoir une incidence sur le sous-marin et sa structure? Dans l'autre sens, il y a aussi le commandant de bord, le pacha, comme ils disent dans l'armée, fait une lessive dans sa cabine. Il y a la machine qui tourne. Ça fait du bruit. Comment le bruit de vibration du sous-marin se propage dans l'eau? Est-ce qu'il peut être détecté? Donc, ce sont les deux enjeux. Ça, c'est pour le côté Naval Group. On va dire, qu'est-ce que vient faire EDF dans l'affaire? Eh ben, vous remplacez ici l'eau, vous prenez de l'eau douce. Vous mettez sur le bord un gros morceau de béton et vous obtenez un barrage. Et la sollicitation, dans ce cas-là, c'est un séisme. Donc l'application, nous, côté EDF, c'est un problème de couplage fluide-structure entre l'eau du réservoir et le barrage en béton, transitoire parce que c'est un séisme. Alors les paramètres, c'est pas une explosion, c'est plutôt un séisme, mais c'est le même genre de choses. Alors, l'objectif, c'était l'extension de la robe pour des problèmes couplés, donc des interactions fluide-structure. Et là, le gros problème, c'est le cas transitoire en temps. Donc, on a la dimension temporelle qui arrive en plus. Et on a des problématiques supplémentaires dont on n'a pas trop parlé pour l'instant, mais un petit peu là, sur le dernier cours, c'est le problème de la stabilité du schéma de discrétisation. C'est-à-dire qu'il faut que notre schéma numérique en temps, un schéma qui permet d'avancer dans le temps, n'explose pas. C'est-à-dire que les résultats restent stables. On a des conditions comme ça qui permettent de résoudre ce problème-là, mais ces conditions-là sont pas directement transposable dans le cas réduit. Il faut donner des conditions supplémentaires sur la construction des barres réduites. Donc, c'est une grosse partie du travail qui avait été réalisé par la DIA. Donc, la méthodologie retenue, alors, il a fait beaucoup de choses. Il a fait de la réduction de base avec POD et un agogridi, avec l'idée de conserver des propriétés sur la base réduite qui permettent de conserver la stabilité du schéma. Et il a également fait l'EIM. Alors, j'ai dit que c'était un problème linéaire, mais il y a un cas où c'est pas non linéaire pour eux, c'est quand la structure, là, ici, n'est pas considérée comme étant élastique, réversible, mais viscoélastique. C'est-à-dire qu'ils introduisent des amortisseurs, des matériaux qui vont amortir le bruit. Et dans ce cas-là, le matériau devient non linéaire dans le sens où il va dépendre de la fréquence de sollicitation. Donc, dans ce cas-là, on peut faire une EIM sur les opérateurs discrets directement. Donc, un des résultats vraiment les plus spectaculaires, c'est celui-ci, c'est une vraie image, hein, c'est pas de l'IA. C'est une application qu'ils ont développée qui consistait à montrer sur une tablette Alors, l'idée, c'était de dire, Marcel, quand il construit son hélice dans l'usine, il utilise la tablette pour dimensionner. Bon, c'est surtout du concept de ce point de vue-là, mais on a construit une base réduite hors ligne de notre problème qui va dépendre, par exemple, de la viscosité de notre matériau. Et ici, en temps réel, eh ben, on déplace les paramètres. Je ne sais pas si on le voit un petit peu ici, là, il y a les paramètres. On déplace les paramètres qui correspondent à l'hélice, les caractéristiques matériaux, et on a le résultat sous forme ici de diagramme de qu'est-ce que vont être les fréquences de résonance, par exemple, de la structure. Donc ça, c'est une application qui est liée effectivement à de la réduction de modèles en temps réel. Alors ça, les industriels adorent ce genre de choses parce que ça permet d'avoir des modèles numériques fins, contrôlables, pour des problématiques de conception et de construction. Parce qu'il y a une caractéristique qu'on n'a pas dit, c'est que EDF n'est pas concepteur en général de ces structures. Il achète du matériel à des fabricants, il est exploitant de matériel. Ce n'est pas tout à fait le même métier. On ne fait pas de la conception en général. Donc là, en l'occurrence, Naval Group, eux, ils font de la conception. Donc c'est une application qu'ils ont donc développée. Voilà. Donc ça, c'était la présentation, normalement, de tout ce qui est mécanique. Si vous voulez faire un petit résumé, ce qui nous reste, parce que là, j'en profite, puisqu'on est dans une enceinte qui nous permet de disposer nos problèmes, donc ce qu'on n'arrive pas à réduire, c'est les problèmes fortement paramétriques. Les problèmes qui ne sont pas paramétriques, ce dont parlait Jean-Philippe, typiquement, quand on dépend de la géométrie, quand le paramètre est la géométrie, la forme du domaine, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Il y a aussi la problématique, je vous ai parlé du contact-frottement mécanique, qui est très difficile à réduire. Et un autre sujet qu'on a légèrement abordé, mais qui est très intéressant, qu'on a abordé légèrement par génie civil, c'est toute la partie comportement des sols. Les sols sur lesquels on construit, ce sont des comportements compliqués, très complexes, pas forcément pour des raisons très bien établies, mais en tout cas, c'est très complexe. C'est un tas de sable, le comportement d'un tas de sable, c'est très compliqué. Et les méthodes de réduction de modèles ne fonctionnent pas bien dessus parce que ce sont souvent des problèmes mal posés, qui ne sont pas coercifs, qui ne sont pas symétriques. Et donc, il y a toute une gamme de problèmes en mécanique des sols qui sont extrêmement importants pour lesquels on n'a pas encore de solution qui permette de réduire le temps de calcul. Sachant que ce sont des problèmes fortement paramétriques parce qu'on a une méconnaissance du sol, hein, on a des sondages ponctuels dans le sol pour trouver les valeurs. Et en plus, ce sont souvent des structures de grande taille. Par définition, les sols sont des structures de grande taille. Donc, ce sont des problèmes très, très complexes pour lesquels on n'a pas encore de méthode très, très robuste.
Je vais poursuivre sur les exemples en passant à un autre domaine. Alors, à la fois pour vous montrer un autre domaine d'intérêt de nos simulations numériques, mais aussi pour vous donner quelques idées d'une autre manière d'utiliser les méthodes de réduction de complexité qu'on a pu développer et partager avec Yvon. Parce que c'est aussi l'intérêt de cet exemple supplémentaire. Alors, je vais vous parler de la neutronique des cœurs de centrales nucléaires, de la neutronique et de la physique des cœurs. Alors, une introduction rapide sur ce que c'est, finalement. Donc, dans un réacteur nucléaire a une source de chaleur à l'intérieur du cœur qui va, dans la machine thermodynamique globale, faire chauffer le circuit primaire, qui va engendrer de la vapeur dans le circuit secondaire, qui va faire tourner l'alternateur, et produire l'électricité qui arrive au bout des fils. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est le contrôle de la source de chaleur, à la fois pour le connaître très précisément, puisque c'est l'élément essentiel initial de production d'électricité, et aussi, évidemment, pour toute la partie sécurité, puisque la combustion nucléaire est quelque chose qu'il faut contrôler sans limite. Donc, la physique des cœurs, c'est quelque chose qui va se préoccuper donc du comportement des neutrons à l'intérieur du cœur, c'est-à-dire l'interaction des neutrons avec la matière, qui ces interactions-là vont conduire en particulier à la fission de noyaux lourds, qui eux-mêmes engendrent des neutrons, et c'est la réaction en chaîne qui est entretenue. Donc, le comportement des neutrons à l'intérieur du cœur, c'est d'abord quelque chose de microscopique, c'est-à-dire à l'échelle de l'atome, et à l'échelle de la rencontre entre les neutrons et les atomes de matière dans laquelle ils évoluent dans le cœur. Et c'est macroscopique, puisque ce qui nous intéresse, c'est l'extraction de la chaleur à l'échelle du cœur. Et dans ce sens-là, les neutrons sont en grande quantité dans le cœur. La population de neutrons dans le cœur est de l'ordre de 10 puissance 13 neutrons par centimètre cube, ce qui est à la fois beaucoup, 10 puissance 13, donc on va faire de la physique statistique et on va considérer ça comme un fluide, et pas beaucoup par rapport au 10 puissance 24, qui est la quantité de matière dans le nombre d'Avogadro. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est à l'origine de la production de chaleur, les réactions nucléaires vont être derrière représenté sous forme macroscopique pour représenter ce qui se passe en termes de population dans, le cube de combustible qui est à l'intérieur du réacteur. Donc, le fonctionnement, l'interaction des neutrons avec la matière va, à l'échelle non plus micro mais macro cette fois-ci, va être aussi très dépendante d'un certain nombre d'éléments qui sont les matériaux présents, leur état, en particulier de température, parce que l'interaction dépend énormément de la température des matériaux, qui eux-mêmes chauffent, donc le combustible, le métal et l'eau chauffent, évidemment, de leur état de, par exemple, de circulation pour l'eau dans le cœur, puisque le caloporteur qui extrait la chaleur, c'est de l'eau, eh bien, il y a de la circulation. Et il y a éventuellement des changements de phase et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un effet, c'est vraiment une physique qui est à la fois micro et macro, et avec de multiples effets physiques ensemble dans le fonctionnement du cœur. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut simplifier le comportement des neutrons, simplifier ou tout au moins le regarder de manière intégrée avec des opérateurs mathématiques qui, si on les regarde de la manière la plus générale, sont des opérateurs de transport et de diffusion. Et Yvon a déjà parlé de ces opérateurs-là. L'opérateur de diffusion est relativement aisé à réduire, mais l'opérateur de transport va nous poser problème. Surtout qu'on est dans des matériaux qui sont hétérogènes, actifs, puisque c'est ici aussi que se passent les fissions. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être de regarder de manière un peu plus simple l'équilibre énergétique de la population de neutrons dans le cœur. Et c'est ça qui nous permet d'utiliser ici une équation de diffusion neutronique qui est en fait un bilan. Le bilan, il consiste à dire qu'on a une source de neutrons qui arrive par fission des noyaux lourds dans le cœur, en n'importe quel endroit, donc on est bien en train de regarder ça dans tout l'espace géométrique du cœur. Donc, on a une source de fission ici qui va conduire à de la diffusion et de l'absorption des neutrons. L'indice 1 indique les neutrons dits rapides, énergétiques. Et ces neutrons énergétiques vont disparaître, c'est-à-dire en fait vont changer d'énergie et devenir une source pour les neutrons dits thermiques, qui sont ceux qui contribuent beaucoup à l'échauffement de l'eau, en particulier de notre caloporteur. Alors, dans cette équation qui n'est somme toute pas très compliquée, qui dépend, je répète bien, de l'espace, on cache derrière tous ces coefficients qui sont ici, les d, les sigma, une dépendance en température, en particulier des matériaux, c'est la plus grosse non-linéarité qu'on ait là-dedans, une dépendance en température, et ces réactions sont fortement dépendantes de la température des matériaux. Le deuxième point qui est intéressant sur cette simple équation de bilan, c'est que les quantités qui sont les plus faciles à mesurer sont les neutrons dits thermiques, sont les neutrons qui sont représentés dans cette variable-là. Donc, on cherche à avoir le comportement de la totalité des neutrons qui sont les densités phi1 et phi2, mais ce qu'on arrive à mesurer simplement, c'est le phi2. Je reviendrai sur ce point-là juste après. Donc, pour que le problème soit bien posé sous la forme qui permet d'écrire les équations et d'avoir les discrétisations pour la simulation numérique, il y a aussi éventuellement des conditions limites. On peut l'étendre sous forme non stationnaire, etc. Mais restons-en là pour l'instant. Alors, pour bien expliciter le domaine dans lequel on va poser cette équation-là, et qui va nous intéresser en termes de réduction de complexité de la simulation, ici, on a les éléments, donc le cœur qui est la source de chaleur dans la machine thermodynamique, qui est le réacteur complet. Eh bien, ici, c'est une grosse cocotte minute, on va dire, avec une partie combustible qui est cette partie basse. Ici, ce sont tout un tas d'éléments qui permettent de contrôler la réaction. Et la circulation de l'eau se fait là au milieu, à travers ces tubulures. Donc, c'est ici qu'il y a un mélange d'eau, de métal pour la tenue du combustible et de combustible. Cette zone-là, celle dans laquelle on va poser l'équation, eh bien, on peut la voir sous une forme un peu plus épurée ici, en trois dimensions. C'est la zone dans laquelle, ici, on a représenté une certaine densité de neutrons. C'est un résultat de calcul tridimensionnel avec une coupe ici pour voir l'intérieur et dans laquelle la partie grise autour, du point de vue des équations que je présentais juste précédemment, est la condition limite pour les neutrons qui peuvent aller chauffer un peu à l'extérieur, mais ne vont pas engendrer de fission à l'extérieur du combustible. Si on regarde la coupe de cet endroit-là en 2D, qui est ici, c'est le dernier schéma, eh bien les zones vertes et beiges sont les zones dans lesquelles il y a deux types de combustible, mais il y a du combustible. C'est là que sont engendrées les fissions et qu'on a la partie diffusion et absorption. Et puis la partie bleue, eh bien, c'est une représentation de la partie externe. C'est les conditions limites. Ça peut être un carré ou ça peut être, comme ici, une zone à créneau, un cube autour, une zone à créneau. C'est la partie dans laquelle il y a plutôt de l'eau, du métal, qui est absorbante pour les neutrons. Donc, l'équation complète de bilan d'équilibre est importante dans le cœur parce que c'est là-dedans qu'on a envie de savoir ce qui se passe réellement. Alors, ce qui va nous intéresser, ça va être de se poser la question ici, de savoir où placer correctement des capteurs de mesure pour avoir la meilleure reconstruction possible, en contrôlant l'erreur qu'on fait derrière, ce qui est très important. Et je vais faire une parenthèse. La précision des calculs que l'on cherche à mener en neutronique est à un ordre de grandeur, à des ordres de grandeur, au-delà de ce qu'on fait usuellement dans d'autres domaines de la physique. En neutronique, ce qu'on cherche on cherche à calculer un certain nombre de quantités avec des précisions de l'ordre du PCM ou du PPM, c'est-à-dire à 10-6 près. Si on cherche une analogie par quelque chose qu'on connaît très facilement, par exemple un bâtiment comme celui-ci de l'ordre d'une dizaine de mètres, si on cherchait à calculer avec cette précision-là sa hauteur, il faudrait l'obtenir en simulation avec 10 micromètres. Sachant qu'un bâtiment tel que celui-ci, entre le jour et la nuit, va voir des variations de hauteur qui sont de l'ordre de 1000 micromètres. Donc déjà, il faudrait introduire dans le modèle de ce bâtiment la variation jour-nuit, une précision importante sur la sollicitation en température, voire la position des chats ou des pigeons sur ce bâtiment, puisque c'est l'ordre de grandeur avec lequel on cherche à calculer la variation de hauteur du bâtiment quand on a une sollicitation comme un chat ou un pigeon qui se pose sur le toit qui sont sur le toit de ce bâtiment. Donc c'est pour dire que la précision qu'on va imposer pour le calcul numérique, la simulation numérique dans ces domaines-là est extrêmement importante. Ça va être une contrainte derrière pour la réduction de modèles et la réduction de complexité. Alors les résultats qu'on a obtenus dans la thèse d'Eline Gong ici, encadrée par Yvon, était absolument remarquable et pour moi, je dirais, montre bien la remarquable capacité d'Yvon d'amener ces méthodes mathématiques dans la réalité industrielle. Merci Yvon. Les résultats sont intéressants à plus d'un titre. Ici j'ai remis l'équation un peu plus détaillée avec des éléments de paramétriques et le calcul sur ce domaine 2D de la partie combustible ici et de la partie hors combustible à l'extérieur. Ce qui est intéressant, premier résultat, c'est qu'on arrive par des méthodes de type EIM, donc par des méthodes incrémentales et dans lesquelles on augmente la base peu à peu, donc on augmente la taille de la base, la dimension de la base. En augmentant peu à peu la dimension de la base, on arrive à reconstituer avec la même qualité que le modèle haute fidélité un modèle réduit, performant sur un tel problème. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit la décroissance d'erreur, que ça soit en normale 2 ou en normale infinie. La normale infinie est la norme du max, donc l'erreur max ou la norme moyenne. On voit une décroissance d'erreur qui va être parfaitement compatible avec la précision qu'on demande au modèle haute fidélité et donc au modèle réduit. On arrive à avoir une décroissance d'erreur qui est en dessous du PPM, donc on va pouvoir utiliser notre modèle réduit comme équivalent du modèle complet. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à contrôler cette erreur-là dans les deux normes en particulier, parce que ces normes-là sont toutes les deux intéressantes, à la fois avoir une erreur moyenne globale qui fait que sur l'intégrale de puissance qu'on calcule sur tout le cœur, eh bien, on va avoir une erreur contrôlée, et de la même manière, sur l'erreur ponctuelle, sur le max de l'erreur, eh bien, on va avoir aussi une erreur contrôlée. Le deuxième point de l'intérêt de ces méthodes incrémentales, donc c'est bien de l'EIM, ou du GUIM, c'est équivalent dans notre cas, c'est qu'on va pouvoir choisir les zones dans lesquelles on va mettre des capteurs. Donc les points magiques dont a parlé Yvon tout à l'heure vont nous indiquer les zones dans lesquelles ça va être le plus intéressant de mettre les capteurs et non seulement les indiquer ces zones-là, mais les indiquer de manière ordonnée. Donc, ici, vous avez cette géométrie ici, en huitième de cœur, hein, parce que c'est symétrique, cette géométrie dans laquelle on a positionné les capteurs à la fois dans l'intérieur du cœur combustible et en partie externe du cœur combustible. Donc ça, c'est le cas général dans lequel on profite de la totalité du domaine et on va chercher par une méthode EIM standard les points magiques, c'est-à-dire les points dans lesquels on va avoir les mesures qui vont nous permettre de compléter la base pour avoir la meilleure connaissance. Ce qui est très intéressant, c'est que si on restreint ici la position des capteurs à n'être que dans le cœur, parce que de manière opérationnelle, c'est là-dedans que l'on peut mettre des capteurs de manière correcte, eh bien on voit que ces courbes de décroissance d'erreur proviennent de ce cas-là, eh bien on voit qu'on contrôle aussi bien l'erreur. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir des mesures qui sont dans une sous-zone du domaine avec un contrôle d'erreur qui est aussi bon que si on l'avait dans la totalité du domaine. Il y a quelque chose d'autre qui est caché derrière ces résultats, c'est qu'en plus, ces capteurs-là ne prennent des mesures que sur cette variable-là. Donc non seulement on arrive à mesurer que sur une sous-partie du domaine, mais aussi que sur une sous-partie des champs qui nous intéressent, et à reconstruire néanmoins la totalité des champs qui nous intéressent ici, hein, c'est tout cela, avec une erreur contrôlée. Donc ça montre l'intérêt énorme de ces méthodes EIM en termes de contrôle d'erreur opérationnelle et adaptation aux contraintes réelles, industrielles, de positionnement de capteurs ou de types de capteurs qui sont disponibles. J'étends l'exemple sur la recherche tridimensionnelle et non pas bidimensionnelle de la position des capteurs. Donc ici, on reprend la problématique de la partie combustible tridimensionnelle dans le cœur du réacteur, dans lequel on va pouvoir positionner des capteurs. Ici, donc, c'est la coupe 2D vue du dessus, et puis ici, c'est la partie développée verticale avec la numérotation ici, qui est celle des positions ordonnées de capteurs ici. Donc, la méthode EIM va nous permettre de construire une base, mais surtout des positionnements de capteurs qui vont être ordonnés. Le premier est ici, le deuxième est là, j'ai déjà perdu le troisième est ici, etc. Donc, ce sont les points dans lesquels le positionnement de capteurs est prioritaire pour avoir à la fois une bonne reconstruction et contrôler une erreur qui va être peu à peu décroissante pour la reconstruction par le modèle réduit par rapport à la simulation haute fidélité. Et c'est non seulement valable dans le positionnement horizontal, mais aussi dans le positionnement vertical. Technologiquement, le combustible à l'intérieur du cœur est organisé par colonnes, et donc on va poser dans des colonnes comme ça la possibilité d'avoir des capteurs qui se situent à certains endroits dans la hauteur. C'est là aussi très intéressant d'analyser le positionnement proposé par la méthode EIM sur la base de l'optimalité de la recherche de la base et des points, parce que ça rejoint totalement des intuitions d'ingénieurs qui étaient déjà utilisées à la conception initiale des centrales, qui date d'il y a 50 ans, etc., qui était d'avoir une non-symétrie des capteurs vus du dessus et une non-homogénéité du besoin de mesure dans la hauteur du cœur. Vous voyez qu'ici, il y a un certain nombre de mesures qui se reproduisent dans la partie basse, qui se reproduisent dans la partie haute, et on en a beaucoup moins dans la partie centrale. Eh bien, c'est parce que c'est les endroits où les erreurs sont les plus importantes, et c'est donc les endroits où les interpolants des méthodes EIM, GUIM indiquent qu'il faut placer les mesures. Donc, l'intérêt de ces méthodes-là n'est pas obligatoirement comme on a parlé Michael pour la conception, parce qu'on n'en est plus à la conception des réacteurs, mais bien à l'exploitation, mais c'est dans l'analyse et la critique des équipements tels qu'ils sont faits actuellement ce genre de méthode nous permettent de dire quelle est la meilleure reconstruction qu'on aurait et à quelle distance on en est, ou quelles sont les mesures les plus cruciales lorsqu'on commence à mettre des contraintes, comme dans le cas précédent dans lequel on ne permettait pas la mesure en dehors du cœur. Donc, sans l'avoir illustré ici, Ces méthodes, et en particulier le PBDW, permettent aussi d'identifier des parts irréductibles d'erreurs. Ici, on est parti sur une méthode EIM sans erreur de modèle, et donc on a fait que réduire l'erreur, donc on a une adéquation parfaite, enfin presque parfaite à la fin, du modèle réduit par rapport au modèle haute définition, mais évidemment, il y a des erreurs autant de mesures que de modèles, donc on peut avoir une part irréductible d'erreurs qui peut être identifiée par ces méthodes-là. Et on a aussi montré qu'on pouvait travailler de manière partiellement non paramétrique, parce que ici, les paramètres tels qu'ils sont identifiés dans l'équation pour matcher avec la position du problème, eh bien, ce sont les paramètres qui interviennent dans l'équation qui sont, eux, continus, mais non paramétriques entre les différents matériaux. Si on considère tous les matériaux comme un ensemble non paramétrique discret, on arrive tout à fait à aussi réaliser de la réduction de modèles par EIM, GUIM et PBDW d'une manière très intéressante. Donc, la partie non paramétrique est aussi traitable par ces méthodes-là. Donc, sans aller plus loin sur l'exemple neutronique, vous voyez que l'intérêt de ces méthodes-là est extraordinaire en termes de précision, de remplacement du modèle haute fidélité par le modèle réduit, mais aussi par autre chose, c'est-à-dire que là, ce que je vous ai montré, c'est quelque chose qui n'était pas possible de faire avant. Il n'y avait pas de méthode bien raisonnable pour avoir une idée de l'optimalité du positionnement des capteurs. Là, ça nous donne une information supplémentaire que seules ces méthodes EIM peuvent nous proposer. Et dans le domaine de la neutronique, ça nous permet d'analyser l'état actuel des paramètres, mais en termes de conception, ces méthodes sont un apport novateur au positionnement de capteurs qu'on n'a pas par d'autres méthodes. Alors, je vais conclure par, après nos exemples, par finalement, vous avez vu sur ces différents exemples un très grand intérêt industriel pour la réduction de complexité. Ça avait déjà été présenté dans les précédentes exposés industriels, mais je précise ce qui nous intéresse ici. C'est premièrement une remarquable aide à la simulation pour les études industrielles. Les études industrielles sont en temps contraint, que ce soit la simulation unitaire ou l'ensemble des simulations de préparation. Et finalement, prévoir pour décider, ça se fait mieux quand on a plus de calculs que quand on est limité en calcul. Donc, réduire la complexité de nos calculs et disposer de plus de calculs pour mieux décider, eh bien, c'est extrêmement utile. Que ça soit en surveillance, en conception ou en vérification, ces méthodes de réduction de complexité sont un apport chaque fois très intéressant. Il n'y a pas un cas où on n'arrive pas à montrer l'apport. Il y a des fois où on n'arrive pas à les faire marcher, mais ça, c'est une autre affaire. C'est la réalité des bruits et des erreurs ou des algorithmes. Mais par contre, chaque fois que ça marche, c'est un apport extrêmement intéressant, quel que soit le domaine dans lequel on l'applique. Pour moi, c'est aussi une aide novatrice à la mesure, très importante, quelque chose qu'on savait difficilement faire. En termes ingénieurs, ça nous permet de dire où mesurer, mesurer au bon endroit, comment mesurer et que mesurer, quelle est la bonne information qu'il faut mesurer pour avoir une reconstruction correcte, mais surtout pour avoir une maîtrise d'erreur et une décroissance d'erreur la plus rapide possible. Et donc, toute la part contrôle d'erreur, que ce soit a priori, a posteriori ou de manière itérative dans les algorithmes gloutons, les algorithmes greedy, est extrêmement intéressante. Ainsi que l'identification de la part irréductible, parce que la plupart du temps, on est dans des cas dans lesquels on est obligé de partir d'un modèle qu'on suppose complet et de mesures qu'on suppose correctes. Alors, je dis bien correctes et non pas exactes, et un modèle complet et non pas parfait, parce que justement, c'est ça la différence. Et donc, l'extension des modèles, et donc identifier dans les modèles ce qui peut manquer sans avoir besoin de le calculer est toujours intéressant. Alors, ces méthodes de réduction de complexité par nature sont une aide à la sobriété de calcul, puisqu'on fait des calculs plus petits, mais aussi, dès qu'on parle de méthodes incrémentales, parce que finalement, construire le modèle réduit de manière incrémentale en apportant de l'information chaque fois que, par exemple, on a une solution haute définition supplémentaire ou qu'on a d'autres solutions et qu'on peut étendre la représentation réduite, c'est extrêmement performant dans le cadre d'études industrielles. Et le fait que ça donne derrière une représentation juste, nécessaire et suffisante, c'est-à-dire qu'on identifie la variété sur laquelle bougent ces solutions, eh bien, est aussi une aide utile la sobriété, elle se retrouve dans l'image que donnait Michael de la tablette pour montrer l'évolution de l'hélice. Et enfin, le dernier point, qui est de beaucoup d'importance du point de vue industriel, c'est une aide à la qualité, mais une aide avec assurance à la qualité, c'est-à-dire que tout ce qui est estimation d'erreur a priori, a posteriori, et certification d'erreur a beaucoup d'importance. C'est souvent délicat d'arriver à calculer les bornes d'erreur, les éléments de convergence d'erreur, parce que ça coûte cher, de manière numérique, ça coûte aussi cher très souvent que l'estimation du modèle haute définition, mais par contre, savoir que ça existe et savoir qu'on peut l'estimer dans les cas où il y en a vraiment besoin et dans lesquels, pour lesquels on a des physiques qui sont très contraignantes, eh ben, c'est extrêmement utile, c'est vraiment ce qui fait que la réduction de complexité, la réduction de modèle peut être utilisée sur nos études industrielles vu les besoins de certification qu'on a derrière. Donc je conclus en disant que ça reste un domaine de recherche largement ouvert. On a posé quelques questions, et actif. Merci Yvon.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.